Chapitre 2. À la recherche de la vraie beauté. Aimer et être aimé, qui n'a pas rêvé d'une telle union? La Bible nous donne des clés pour y parvenir. Dans le livre d'Esther, nous trouvons l'histoire d'une jeune femme qui réussit à tresser une relation avec un homme bien difficile. Ce dernier, totalement étranger aux principes bibliques, vit dans une polygamie légalisée. Elle choisit de l'aimer. Comment réussit-elle ce tour de force? L'histoire commence par une grande fête organisée par le roi Assuérus, son futur mari, monarque d'un immense empire qui s'étend de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Pour démontrer sa magnificence, il convie toute la capitale à un festin de 7 jours. Alors que la fête bat son plein et que le vin coule à flots, il lui vient une idée. Convoquer la reine, Vasti, pour que tous les convives puissent admirer sa beauté. La femme n'est-elle pas la gloire de l'homme? 1 Corinthiens 11, verset 7. Mais, chose inconcevable en pareille circonstance, la reine, sans doute trop peu consciente de la fragilité de sa position, défie l'autorité royale et refuse de se présenter. C'est une gifle publique pour celui qui a droit de vie et de mort sur tous ses sujets. Profondément offensé, il convoque ses sages pour débattre de la conduite à tenir. Ceux-ci font comprendre au roi que cet événement risque d'influencer toutes les femmes du royaume. À l'instar de la reine, elles pourraient commencer à mépriser leurs maris au point de leur désobéir ouvertement. La sanction est impitoyable. Vasti est répudiée. Quelque temps plus tard, les plus belles jeunes filles sont rassemblées à la citadelle de Suse pour que le roi choisisse parmi elles la nouvelle reine. C'est ainsi qu'Esther se retrouve au palais, au milieu des plus grandes beautés du royaume. Qui est-elle? Juive, orpheline, elle a été adoptée par son cousin Mardoché. Il est vrai qu'elle ne passe pas inaperçue avec son éclatante jeunesse, et elle possède, comme on va le voir, une extraordinaire beauté intérieure, celle du cœur. La beauté vient de l'intérieur. Les plus belles stars vieillissent et se fanent, mais les épouses qui cultivent la beauté inaltérable d'un esprit doux et paisible, 1 Pierre 3, verset 4, garderont ce rayonnement intérieur, car la présence du Seigneur en est la source. La confiance d'Esther envers son Dieu se manifeste déjà dans chaque détail de sa vie. Lors de son départ, Mardoché lui interdit de révéler ses origines ethniques. Elle ne se lance pas dans une interminable série de « pourquoi ?». Elle obéit, même si elle ne comprend pas toute la portée de cette injonction. Elle croit que cette consigne lui est donnée pour son bien. Son cousin l'aime comme si elle était sa propre fille, et il a une plus longue expérience de la vie qu'elle-même. Au palais, on la confie aux soins de Hegai, eunuque de l'empereur. Dans cette maison où intrigues, querelles et jalousies rendent l'atmosphère étouffante, Esther ne revendique rien. Elle rayonne de douceur et de paix. Cela plaît tellement à Hegai qu'il lui offre le meilleur appartement du harem. Il lui fournit aussi tout le nécessaire à ses soins de beauté, ainsi que 7 suivantes spécialement choisies. La beauté est la sagesse. Au bout d'un an, lorsqu'enfin arrive son tour d'être présenté au roi, le protocole l'autorise à réclamer tout ce qu'elle veut. Robe, parfum, bijoux, tout est à sa disposition. Une offre fabuleuse qui ferait rêver plus d'une femme. Étonnamment, Esther ne prend que ce qui lui est recommandé par Hegai. Pourquoi? Parce qu'elle ne se fait pas belle pour elle, pour sa propre vanité, mais pour celui qui va peut-être devenir son époux. Elle demeure flexible et souple même dans sa tenue. Avoir été choisie, choyée et se trouver maintenant à la veille de rencontrer le souverain ne lui est pas monté à la tête. Son cœur n'est pas enflé d'orgueil. Aimer et servir, voilà son désir. Sans s'en rendre compte, elle fait là un coup de maître. En effet, Qui est plus qualifié que Hegai pour savoir ce qui séduit ou rebute le souverain? Par sa gentillesse, son caractère ouvert et sage, elle attire la bienveillance de tous ceux qui la rencontrent. Quand elle se présente au roi, il devient amoureux d'Esther plus qu'il ne l'a jamais été d'une autre femme, et c'est elle, parmi les jeunes filles, qui gagne sa faveur et sa tendresse. Il pose la couronne royale sur sa tête et la proclame reine. Il organise en l'honneur d'Esther un grand banquet auquel il invite tous ses hauts fonctionnaires et ses ministres. Il accorde une dispense d'impôts aux habitants des provinces et distribue des présents avec une générosité toute royale. Esther 2, versets 17 et 18. Lorsque j'étais jeune fille, j'ai posé la question suivante à un pasteur. Une chrétienne peut-elle se maquiller? Sa réponse m'a fait réfléchir. Une chrétienne ne devrait jamais négliger sa tenue. Si, par exemple, elle travaille dans un milieu où toutes ses collègues sont élégantes et bien maquillées, elle risquerait de donner un contre-témoignage par une apparence anachronique. Il en est de même pour une chrétienne hyper fardée, qui évolue dans un milieu où la simplicité est de mise. Si notre motivation est de plaire au Seigneur, d'être son témoin là où il nous place, nous aurons l'allure et la tenue qui conviennent à des filles du royaume. Cela demande parfois un certain renoncement à des goûts personnels, nos vêtements reflétant notre personnalité, la façon dont nous nous percevons. Depuis que je suis mariée, je porte des vêtements plus élégants, aux couleurs plus soutenues. Timide comme je l'étais, il m'a fallu du temps pour m'y mettre. Parallèlement, le Seigneur m'a restaurée pour que je croie à ma propre valeur. Ma coiffure a aussi été influencée par les goûts de mon mari, qui préfère les cheveux longs, ce qui ne plaît pas à tous les coiffeurs. Celle qui est mariée s'inquiète tout naturellement de plaire à son mari. 1 Corinthiens 7, verset 34. Si celui-ci aime un style classique, adoptez-le avec fierté. S'il préfère le changement, soyez sensible aux nouveautés. Vous allez le rendre heureux et nourrir cette union qui fait de vous un couple unique. La beauté ou la séduction? Il faut reconnaître que le chemin est étroit. Seule la sagesse d'en haut nous permet d'enchanter notre mari sans pour autant être une occasion de chute pour les autres hommes. J'ai eu le privilège de rencontrer celle qui a été élue reine de beauté à Bukavu, au Congo démocratique. Elle nous a expliqué qu'étant l'épouse d'un fonctionnaire se déplaçant souvent à Paris, il lui était facile de se procurer mini-jupe, pantalon de cuir moulant ou chemisier transparent. Après sa conversion, elle a continué à s'habiller à la dernière mode jusqu'au jour où elle a fait un petit tour dans sa garde-robe en adoptant le regard du Seigneur. Elle a alors renoncé à beaucoup de tenues provocantes. Rassurez-vous, elle est restée un modèle d'élégance, harmonisant couleurs et coupes qui la mettent en valeur. Quelle a donc été la réaction de son mari non-chrétien? Un vif soulagement. « J'avais peur, avec ta façon de t'habiller, qu'un séducteur finisse par t'enlever, » lui a-t-il confié. La beauté, c'est se savoir aimer. Durant son année de préparation, Esther avait bénéficié des meilleurs cosmétiques et parfums en vogue à la cour. Des parfums et des crèmes. L'apôtre Pierre n'a-t-il pas dit que la vraie parure est celle du cœur? Certainement, la beauté intérieure est prioritaire, mais en toute chose, l'équilibre est de mise. L'Écriture affirme que notre corps est un don de Dieu. Nous sommes aimés. Si Christ est Maître et Seigneur de notre vie, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous n'ayons donc pas honte. Prendre soin de nous-mêmes fait partie de la sage gestion que Dieu demande. Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Éphésiens 5, verset 29. Nous sommes des princesses, filles du roi des rois. Nous avons le devoir de soigner notre apparence, nos dents comme des perles, notre chevelure comme un sujet de gloire, notre silhouette comme celle d'une ambassadrice. Les négligés ne le glorifient pas, mais incite plutôt les non-chrétiens à le calomnier, l'accusant de réduire ses enfants à un style de vie médiocre. Nous ne pouvons certes pas changer la couleur de nos yeux. Acceptons-la simplement. Dans d'autres domaines, notre responsabilité est engagée, notre hygiène, notre silhouette, notre apparence. Le Seigneur peut nous aider à tirer le meilleur parti possible de ce qu'il nous a confié. En réponse à nos prières, il peut nous envoyer une amie qui nous aidera à trouver les couleurs qui nous mettent en valeur. Elle nous montrera comment coiffer ses cheveux dont nous désespérons de faire quelque chose. Que Dieu nous donne d'accepter ce qui ne peut être changé, de changer ce qui doit l'être, et d'avoir la sagesse de faire la différence entre les deux. Nous aimons-nous réellement? Sommes-nous reconnaissantes envers Dieu pour notre corps? Lorsque nous regardons les revues de mode, nous nous trouvons parfois trop grandes, trop petites, trop maigres ou trop enveloppées. Notre nez nous paraît trop voyant, notre poitrine trop plate ou trop forte, nos pieds trop grands ou trop larges. Tant de caractéristiques qui nous chiffonnent. Un regard exagérément critique peut conduire à des comparaisons dévalorisantes. La compétition est mauvaise conseillère. Elle nous détruit en nous élevant ou en nous rabaissant abusivement. Elle favorise la conformité au détriment de la créativité. L'héroïne du Cantique des Cantiques, qui représente chacune de nous, reçoit cette merveilleuse déclaration du bien-aimé. « Que tu es belle, mon ami, que tu es belle !» Pour le Seigneur, chacune d'entre nous revêt une valeur unique. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'attire avec bonté. Jérémie 31, verset 3. Une jeune femme, se trouvant bien trop grande, redoutait de rester célibataire. En dépit de ses craintes, elle décida de se confier en celui qui affirme « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » Jérémie 29, verset 11. Dans la présence de Dieu, l'adoration et l'écoute de sa parole, elle accepta sa taille. En conséquence, elle décida qu'elle ne se marierait pas avec le premier venu, mais avec celui qui aura vraiment les qualités d'un bon époux. Charmante, équilibrée, elle a aujourd'hui un merveilleux mari, un foyer harmonieux, de beaux et grands fils. Son entourage accepte sa taille, parce qu'elle-même l'a accepté. S'accepter soi-même est l'indispensable fondement de l'amitié conjugale. La Bible nous invite à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si nous ne nous aimons pas, comment croire que notre mari puisse nous aimer? Ce handicap rend l'amitié utopique. Nous dépenserons toute notre énergie pour trouver dans le conjoint l'assurance d'être aimé sans jamais y parvenir vraiment. On sera constamment frustré. Rechercher auprès d'une créature limitée et imparfaite ce que seul le Créateur peut donner est voué à l'échec. Aucun mari, aussi merveilleux soit-il, ne peut satisfaire cette soif inextinguible d'être totalement connu et totalement accepté. Pour nous aider à saisir cette vérité, Lynn Payne nous encourage à tenir un journal de prière. Nous pourrons y noter, entre autres choses, les pensées négatives que nous entretenons secrètement à notre sujet. Le fait de les écrire permet de les confronter à la lumière de la parole. Nous découvrons que bien des passages de l'Écriture sont autant de réponses personnelles à nos « je ne vaux pas grand-chose » ou « je ne peux pas ». Face à ces pensées d'infériorité, notons les promesses bibliques. En Christ, bien avant de poser les fondations du monde, Dieu nous avait choisis. Éphésiens 1, verset 4a. Tu as du prix à mes yeux, tu es honoré et je t'aime. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ésaïe 43, verset 4a et 5a. Méditons ces paroles. Recevons-les comme un message personnel. Proclamons-les afin qu'elles prennent vie en nous. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Une jeune convertie venait de confesser ses fautes passées. Elle se sentait sale, misérable, indigne de l'amour de Dieu. Intérieurement, elle se traitait de vieux crouton. C'est alors qu'elle a reçu une parole prophétique qui commençait ainsi. « Mon enfant !» Ces mots si simples et si forts lui révélaient l'amour de son Seigneur et balayaient du même coup tous les termes injurieux dont elle s'affublait jusque-là. La beauté restaurée. Certaines pensées négatives proviennent de paroles blessantes qui nous ont atteintes en plein cœur. Ces flèches empoisonnées doivent être délogées et remplacées par celles qui nous révèlent notre rang de princesse aimée et choisie. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Psaume 45, verset 12. Si nous levons les regards sur le Père, pardonnons à ceux qui nous ont offensés, il nous révélera la beauté qu'il voit en nous. Il sait pourquoi il nous a créés ainsi et pas autrement. L'anecdote suivante illustre cette pensée. Une enfant priait Dieu de lui donner des yeux bleus. Rien ne changeait malgré sa ferveur. Devenue adulte, elle partit comme missionnaire en Inde. Là, au milieu d'un peuple aux yeux bruns, elle remercia le Créateur de l'avoir faite ainsi. C'était une immense joie pour elle d'être assortie à sa nouvelle patrie. Notre regard, le timbre de notre voix, notre démarche ou tout simplement notre sourire sont des éléments uniques, dons de Dieu. Le comprendre fera germer la gratitude et fleurir la vraie beauté.